La Nouvelle-Calédonie est l'une des priorités du gouvernement. En présentant ses vœux, la ministre des Outre-mer est revenue sur le processus en cours et sur les récentes discussions. Lutter contre l'urgence sociale reste une priorité. Lussoinck mobilisera ses adhérents devant le Congrès la semaine prochaine. La mairie de Ponérioin et ses services fermés jusqu'à lundi. Décision du maire après des actes de vandalisme à l'encontre de bâtiments publics. Washington renforce sa flotte déjà déployée au large de l'Iran. Les USA maintiennent leur étau contre le régime des Mollahs. En métropole, le Sénat rejette le projet de loi sur la fin de vie et son article sur l'encadrement de l'aide à mourir, mais le texte va revenir devant les députés. En football, l'OM ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG et Monaco devront passer par les barrages. Et puis, grosse déception pour les handballeurs français éliminés de l'Euro avant même les demi-finales. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Une fois que nous aurons développé tous ces titres, nous nous retrouverons pour les jeudis de l'économie dans lesquels nous scruterons cette semaine l'état du marché automobile. On sait qu'il souffre lui aussi des conséquences des crises successives et qu'il a aussi été particulièrement visé lors des émeutes de mi-2024. Quels sont les chiffres de vente, les évolutions? Nous en parlerons avec Laurent Jandot, le directeur du groupe qui porte son nom et qui est président de l'association professionnelle des concessionnaires automobiles, avec Stéphane Grousset, directeur commercial de CPH, Walter Hickson, directeur général des concessions Mazda, et Benoît Guillemard, directeur d'Autovolt. Des jeudis de l'économie à retrouver donc dès la fin de ce journal. En Nouvelle-Calédonie, nous avons obtenu ce que beaucoup disaient impossible, déclare la ministre des Outre-mer lors de sa cérémonie de vœux, Ruu Dino. Naïma Moutchou évoque le processus en cours en affirmant que la Nouvelle-Calédonie est l'une des urgences du gouvernement, Elisabeth Noir.
Naïma Moutchou déclare d'emblée que le ministère des Outre-mer n'est pas un ministère social. C'est un ministère de souveraineté, affirme-t-elle, souveraineté territoriale, économique, stratégique et régalienne. La ministre des Outre-mer qui rappelle les trois principes qui fondent sa méthode. Le premier, c'est d'agir là où il y a urgence. Et à ce titre, elle cite la Nouvelle-Calédonie comme une priorité. Et elle revient sur la situation particulière du territoire qu'elle a trouvé à son arrivée.
Quand je suis arrivée au ministère, j'ai entendu beaucoup de choses. À Paris, certains expliquaient très tranquillement que ce dossier était ingérable, que c'était l'échec assuré, que c'était trop tard, que c'était déjà perdu. Il y a ceux qui ont commenté de près comme de loin, qui ont distribué les mauvais points, puis il y a ceux qui ont travaillé. Je suis allée sur le terrain très vite, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas faire de politique à distance. On ne peut pas se contenter de constater l'état des fractures, il faut les affronter. La réalité, je l'ai vue. Le territoire épuisé, des tensions profondes, une confiance qui est abîmée, mais, l'envie évidemment des Calédoniens de s'en sortir. Et dans ce contexte, oui, ramener tout le monde à la table des discussions était difficile, mais c'était indispensable. C'est ce que je me suis employée à faire en renouant le dialogue avec tout le monde, en étant transparente avec tout le monde, en dépit des désaccords. J'ai retissé, je crois, le lien de confiance.
Et Naïma Moutchou est alors revenue sur la récente séquence de discussion organisée à Paris par le président de la République.
Nous avons travaillé sur tous les sujets, le fond, les mots, le calendrier, l'avenir, pendant 4 jours, sans tabou. Et à la fin, nous avons obtenu ce que beaucoup disaient impossible, 2 textes qui permettent de donner toute sa portée à ce moment politique. L'accord Élysée-Oudinot sur le volet institutionnel et un protocole financier qui détaille une partie du grand pacte de refondation économique voulu par le Premier ministre.
Un calendrier est désormais posé et c'est au Parlement de prendre sa part, ajoute la ministre des Outre-mer, en soulignant que les Calédoniens ont déjà fait des efforts considérables. La deuxième urgence du ministère des Outre-mer, c'est Mayotte. La troisième, c'est la lutte contre la vie chère. Naïma Moutchou cite également comme principe de son action celui de créer les conditions de confiance et de stabilité et celui de préparer l'avenir. Et puis avec humour, elle souligne enfin qu'elle est la 11e ministre des Outre-mer depuis 2017. Et elle propose de ne pas en changer.
Plusieurs syndicats, et notamment Lussoinck, réclament une accélération des décisions pour lutter contre l'urgence sociale, toujours réelle en Calédonie, affirme-t-il. Et c'est pour cela que Lussoinck appelle à une mobilisation syndicale devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mardi prochain, le 3 février, à partir de 7h. Nous avons demandé ce matin à Jean-Marc Burette, le secrétaire général de Lussoinck, qui était notre invité, si une mobilisation syndicale dans ces périodes compliquées pour le territoire était nécessaire.
Lussoinck, c'est un syndicat de dialogue, avant tout, de propositions et d'actions. On a estimé qu'aujourd'hui, il était le temps de l'action. On a participé à de nombreuses réunions, on a fait de nombreuses propositions et aujourd'hui on se rend compte que ça ne répond pas aux inquiétudes des Calédoniens qui ont été fortement impactés en 2024. Il n'y a rien qui change dans leur quotidien. Les familles sont toujours autant en difficulté. Et on fait cette mobilisation pour alerter les élus sur les prises de décision rapides, qui doivent être maintenant rapides, puisqu'on ne peut pas continuer à laisser les Calédoniens souffrir et de les laisser comme ça sans réponse et sans visibilité sur leur avenir.
Au cœur des revendications de Lussoigne pour cette mobilisation, la question des aides de l'État dans le cadre du pacte de refondation économique et sociale. Lussoigne demande un fléchage précis de ces aides, mais pas seulement.
Nous, ce qu'on demande, c'est des garanties. Des garanties à ce que cet argent qui... On a milité pour des choses, hein. On a milité pour que la population puisse être soutenue dans ce moment un petit peu critique, et on souhaite que ce fléchage soit fait en ce sens et qu'il soit contrôlé, et voire même qu'on puisse communiquer dessus et partager ce fléchage. Mmh. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Comme je dis, chacun reste dans son rôle, mais il faut que impérativement que ça ne sert pas à boucher des trous à gauche et à droite, quoi.
Et d'avoir en plus un dispositif de contrôle social, c'est-à-dire pour vérifier que les sommes sont bien utilisées pour ce à quoi elles avaient été destinées.
Exactement. Ce que je dis, c'est pas pour boucher un trou par-ci par-là, ou suivant l'actualité du moment ou la priorité du moment, qu'il y a un fléchage nouveau qui apparaisse. On a connu ça également dans des réformes fiscales, où parfois le fléchage n'était pas très clair et que d'un seul coup on a une difficulté qui apparaît et ça vient pour boucher cette difficulté.
Jean-Marc Burette, le secrétaire général de Lussoigne, qui était donc notre invité ce matin. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Dans cette période de crise économique et sociale, est-ce selon vous le bon moment pour les syndicats de mettre la pression sur les élus? Si vous pensez que c'est le bon moment, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier est 62% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la réforme constitutionnelle qui sera examinée le 24 février par le Sénat ira jusqu'au bout et qu'elle sera adoptée par le Congrès de Versailles. Ils sont 38% à penser que ce ne sera pas le cas. Il est 11h38, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et notamment la préparation des élections municipales à Dembéa. A tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Voyagez en tout confort et sécurité avec le Maridé 7 et son équipage souriant pour passer une journée inoubliable au Phare Amédée. Téléphone 26 31 31, réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Je vous le disais il y a un instant, nous allons parler maintenant de la préparation des élections municipales à Dembéa. Le maire sortant, Johan Lecourieux, candidat à sa succession, a présenté ce matin, Nicolas Legrand, les grandes lignes de son programme, mais aussi sa vision de la commune pour la future mandature.
Oui, une conférence de presse donc, qui était organisée au restaurant du golfe de Dembéa. Johan Lecourieux, entouré de son équipe, a donc présenté les quatre grandes priorités. Tout d'abord, un aspect sécuritaire, l'aspect du vivre ensemble également, qui a fait l'objet d'un point très important dans cette conférence de presse. Une ville proche, dynamique, est tourné vers l'avenir, c'est ce que nous dit Johan Lecourieux de sa liste Dembéa avant tout. Écoutez.
Quatre axes prioritaires qui sont surtout dans une trajectoire de reconstruire la ville avec un côté de solidarité envers tous les Dembéens, l'amélioration du cadre de vie et surtout avant tout une ville sûre. C'est exactement dans la continuité du mandat et aussi une accélération tenant compte de la réalité de ce que nous vivons à Dembéa avec des axes forts comme le doublement des caméras de vidéosurveillance sur l'ensemble du mandat, la poursuite de la reconstruction des équipements sportifs et culturels qui ont déjà débuté et qui vont se poursuivre parce que c'est des chantiers qui durent un certain temps, et aussi de créer des espaces pour que les Dembéens se rencontrent, que ce soit d'un point de vue générationnel, d'un point de vue communautaire, d'un point de vue de quartier, le nord et le sud, d'en trouver ces moments pour que l'ensemble des Dembéens puissent se retrouver et partager pour construire cette identité dembéenne et surtout cette fierté d'être dembéen.
Johan Lecourieux qui est notamment revenu sur le contexte de cette campagne municipale sur la commune de Dembéa, imprégné évidemment du contexte territorial.
Je pense que certains l'instrumentalisent pour essayer d'avoir du contenu dans leur projet ou dans leur campagne électorale municipale, mais une campagne municipale reste municipale avec des enjeux municipaux, avec des projets municipaux, avec... aussi une relation humaine entre le candidat et les habitants de la commune. Donc c'est vraiment, je pense, une dérive peut-être qui sont amenés par certains candidats d'utiliser les enjeux territoriaux. Le seul enjeu territorial qu'il faut en tenir compte, c'est le contexte financier et budgétaire qui va toucher toutes les collectivités. Et c'est là où on verra que les propositions démagogiques ou démesurées n'ont pas place dans cette campagne municipale.
Yoann Le Courrieux, le maire sortant, hein, donc, qui est donc devenu maire de Dimbé à fin 2023 après l'élection de Georges Naturel lors des élections sénatoriales, présentait donc les grands axes de sa campagne ce matin. Et il faudra entendre maintenant quelques semaines avant de connaître ses colistiers.
À Radio Rythme Bleu, il est 11h41.
La mairie de Ponérihouin et ses services fermés jusqu'à lundi. Décision prise par Pierre-Chanel Tutugoro, le maire de la commune, pour protester contre une série d'actes de vandalisme commis sur des bâtiments publics de la commune. Il condamne évidemment fermement ces actes et informe que les autorités compétentes ont été saisies. Pierre-Chanel Tutugoro lance un appel à la population pour qu'elle fasse preuve de solidarité, de responsabilité et de soutien.
C'est ce sentiment de ras-le-bol qui a fait que été décidé de se mettre en retrait aux enjeux de la commune et puis pendant une semaine marquer ce ras-le-bol général. Je ne vous dis pas ce qui va en sortir de ça, mais à mon avis, comme on a du mal à avoir des noms sur les enquêtes, peut-être va falloir aider à ce que ces enquêtes aboutissent. Si on n'a pas de réponse à tout ça, un mouvement qui risque de durer. Pourquoi la durée? Parce que si les incivilités, ces actes d'incivilité ne sont pas punis et que tout le monde s'en prend en matériel de la commune, on ne pourra pas réparer tous ces matériels-là. Et que ce matériel-là, il va rester en panne et endommagé jusqu'à au moins à la fin de l'année. C'est ça le résultat, en fait.
Pierre-Chanel Tutugoro, le maire de Ponérihouin, des propos recueillis par Kélinda Boicou. La mairie va donc rester fermée jusqu'à lundi. Dernière ligne droite avant la rentrée universitaire. Les étudiants en première année découvriront le campus dès mercredi prochain, le 4 février. Et tous les autres sont attendus le 9 février, Charlotte Coulson.
La plupart des futurs étudiants sont déjà prêts, mais certains retardataires finalisent toujours leur inscription. Depuis plusieurs années, tout se fait de manière dématérialisée, mais quelques étudiants bénévoles sont toutefois présents à l'UNC pour aiguiller les jeunes qui rencontreraient des problèmes dans leur démarche. C'est le cas de Mathéo, 17 ans. Il a fait sa première rentrée universitaire en licence SVT et s'est rendu à Nouville pour trouver de l'aide.
On nous demande une inscription en ligne, sauf que moi j'ai eu des problèmes dessus parce qu'on me demande mon numéro de dossier Parcoursup. Et en voulant me connecter à Parcoursup, on ne me donne pas accès à mon compte Parcoursup. On me dit que je ne suis pas assigné à un établissement. Je suis venu justement pour voir s'ils pouvaient, agir sur ça et peut-être me donner de quoi pouvoir m'inscrire justement.
Jodice Lama est ambassadrice étudiante depuis 2022. Elle est chargée d'accueillir et de répondre au mieux aux demandes de ses futurs étudiants qui viennent parfois en nombre et au dernier moment pour certains.
On a eu un bug lundi matin parce que c'était le début. On a eu le rush ce lundi-là parce que les gens se sont réveillés. Mais sinon, on a eu par vague les personnes, que ce soit leur famille ou les étudiants tout seuls. La semaine dernière, on a eu une trentaine de personnes et là, en deux jours, on a eu 20 personnes. C'est juste une manque d'information parce que certaines personnes n'ont pas Internet ou sinon l'Internet ne fonctionne pas. Du coup, ils viennent ici et on a un pôle assistance pour les aider à s'inscrire à l'université. Mais pour ça, il faut qu'ils aient soit Parcoursup, soit un lien envoyé par mes responsables.
L'inscription en ligne pour l'université se déroule jusqu'au 3 février. Pour tout problème, il est donc possible de se rendre directement sur le campus ou en appelant le 290-290 du lundi au vendredi.
L'actualité dans la région et l'Australie renforce ses liens de sécurité avec le Timor oriental. C'est la raison de la première visite hier du Premier ministre australien Anthony Albanese à Dili, la capitale du Timor oriental. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a profité de sa visite pour rencontrer le président du Timor oriental, José Ramos Horta, et son Premier ministre, Xanana Gusmão, avec lequel il a signé ce qu'il a appelé un nouveau partenariat pour une ère nouvelle. Le document vise notamment à approfondir la coopération bilatérale en matière de développement économique, de sécurité et de défense. D'après Anthony Albanese, le pacte repose sur deux principaux piliers, à savoir la paix et l'intégration régionale, et la prospérité et la résilience. Le document signé hier à Dili prévoit également que les deux pays renforceront davantage encore le programme de développement de la police timoraise et la coopération bilatérale en matière de défense. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 11h46, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde et cette pression militaire de Donald Trump sur l'Iran. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Et l'étau militaire américain se resserre au large de l'Iran. Washington a envoyé une première flotte dans le golfe Persique, notamment son super porte-avions, l'USS Abraham Lincoln. Une seconde flotte serait en route pour rejoindre la première. Après la répression sanglante du régime iranien ces derniers jours contre des manifestants hostiles au régime des Mollahs, Donald Trump met donc la pression sur le régime et son programme nucléaire et menace toujours d'une opération militaire. De son côté, les pays de l'Union européenne veulent aussi sanctionner le pouvoir iranien. Ils doivent voter la nuit prochaine pour nous pour placer les gardiens de la révolution, le bras armé du régime islamique, sur la liste européenne des organisations terroristes. Une décision que soutiendra la France. Jacques Serret pour Europe 1.
La position française vient d'être clarifiée selon une source de l'Élysée. À Europe 1, la France soutient désormais l'inscription des gardiens de la révolution iranien sur la liste européenne des organisations terroristes. Jusqu'ici, Paris avançait avec prudence. Désormais, la ligne est assumée. Concrètement, demain à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères doivent d'abord valider un nouveau paquet de sanctions européennes, interdiction de visa et gel d'avoir, visant notamment plusieurs hauts responsables iraniens, dont des cadres des gardiens de la Révolution. Mais la discussion ira plus loin. L'Italie et l'Allemagne sont suivies par la France pour franchir ce cap politique et inscrire sur la liste des organisations terroristes de l'Union le corps des gardiens de la Révolution. Une décision qui serait lourde de conséquences, mais elle nécessite l'unanimité des 27 États membres. Téhéran a déjà mis en garde contre des conséquences destructrice si cela devait se confirmer demain.
Une nouvelle manifestation de ressortissants iraniens en France a eu lieu à Paris la nuit dernière pour nous. Ils réclament la chute du régime et le retour au pouvoir de Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, chassé du pouvoir en 1979, et soutiennent aussi l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes.
Nous demandons le classement des gardiens sur la liste des entités terroristes. C'est un peu notre dernier cri de désespoir face au massacre de dizaines de milliers d'Iraniens. Mais il serait temps d'agir face à l'islamisme et au terrorisme.
On a cru à Donald Trump parce qu'il nous a dit « Allez-y, sortez dans la rue, on arrive ». Il doit agir parce qu'il continue à tuer, on n'en peut plus.
Reza Pahlavi, c'est la seule alternative. Vous savez, la République islamique a volé nos rêves. Il n'y a que Reza Pahlavi qui peut nous sauver.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. En métropole, un nouveau revers pour Emmanuel Macron. Les sénateurs ont rejeté le projet de loi sur l'aide active à mourir. Ils ont retiré l'article prévu pour encadrer cette pratique, toujours interdite en France. Mais les débats sont loin d'être terminés, puisque le texte va maintenant revenir à l'Assemblée nationale. Mayelaine Trémollet pour Europe 1.
Si après deux semaines d'examen au Sénat, c'est un soulagement pour les partisans d'un droit à l'euthanasie et au suicide assisté, les opposants au texte attendent beaucoup de cette nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui commencera dès lundi en commission. Christophe Benz, porte-parole du RN sur le sujet.
On revient en deuxième lecture pour approfondir le débat. Certains vont vouloir élargir, certains vont vouloir restreindre. Il y a beaucoup de députés sceptiques, pas radicalement pour ou radicalement contre, qui pourraient, en fonction des débats, basculer et, je l'espère, s'y opposer.
Élue LR du Jura, Justine Gruet regrette quant à elle un calendrier trop rapide.
Je m'interroge quand même sur l'opportunité de vouloir aller si vite. Ce n'est pas forcément l'urgence de notre pays, quand on voit notamment l'état de notre système de santé.
Toujours est-il qu'après ce second passage à l'Assemblée, le texte reviendra une dernière fois au Sénat, qui pourrait à nouveau tenter de modifier en profondeur la copie adoptée par les députés. Pour rappel, à la fin, c'est le gouvernement qui tranche, soit en donnant le dernier mot à l'Assemblée, soit par un référendum qui serait décidé par Emmanuel Macron.
L'actualité politique, c'est aussi la préparation des élections municipales et certains candidats voient plus loin. C'est le cas d'Édouard Philippe, engagé dans une lutte à distance avec Gabriel Attal pour représenter le camp centriste aux prochaines élections présidentielles. Édouard Philippe qui vient de franchir une première étape.
Je viens vous dire que oui, évidemment, je serai candidat aux élections municipales qui se tiendront les 15 et les 22 mars prochains.
Voilà, Édouard Philippe a donc annoncé sa candidature à la mairie du Havre. Il occupe le siège depuis 2014 et avait été réélu en 2020. L'ancien Premier ministre a clairement annoncé que s'il n'était pas réélu au Havre, il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle. À 11h51, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive avec Lionel Sabot. Et on se retrouve ensuite pour les Jeudis de l'économie. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la Province Sud.
Et ouais !
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et du football pour ouvrir cette page de sport avec la fin ce matin de la première phase de la Ligue des Champions. Lionel, Paris et Monaco poursuivent l'aventure. En revanche, c'est terminé pour l'Olympique de Marseille.
Ouais, gros coup dur pour le club phocéen qui dit donc adieu à la coupe aux grandes oreilles. Les Marseillais qui sont éliminés de la compétition après une lourde défaite sur la pelouse des Belges du club de Bruges. Défaite 3-0 des phocéens qui sont passés à côté de leur match et qui sont en plus éliminés à cause d'une moins bonne différence de but que le Benfica Lisbonne. Les Lisboètes qui terminent devant l'OM après leur victoire 4-2 sur le Real Madrid. Le but de la qualification, le quatrième, a été inscrit, écoutez bien, la 98e minute de jeu par l'Ukrainien Anatoly Trublin, qui est le gardien de but du Benfica Lisbonne. L'Olympique de Marseille éliminé donc sur un but du gardien du Benfica. C'est terminé pour Marseille. Ça se poursuit, vous le disiez, mais en passant par les barrages pour Monaco et le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe en titre. Ce matin, les hommes de Luis Enrique n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1 au Parc des Princes face aux Anglais de Newcastle. Paris termine à la 11e place de cette première phase de la compétition. Un peu décevant hein, pour l'équipe championne d'Europe en titre. Monaco s'est également qualifié pour les barrages de cette Ligue des Champions. Une qualification des hommes du Rocher après un match nul 0-0 face à la Juventus de Turin. À l'issue de cette première phase, Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting Portugal et Manchester City sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Real Madrid, l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain, Newcastle, la Juventus, l'Atlético Madrid, l'Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, Dortmund, l'Olympiakos, le club de Bruges, Galatasaray, Monaco, Karabag, les Norvégiens de Bodø/Glimt et le Benfica joueront les barrages dont le tirage au sort aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi pour nous. Barrage à suivre les 17 et 18 février, puis les 24 et 25 février.
Allez, un peu plus simple, mais grosse déception quand même pour l'équipe de France de handball qui ne verra pas les demi-finales du championnat d'Europe des Nations.
Ah, grosse désillusion effectivement pour les Français qui se sont inclinés 38 à 34 face à l'Allemagne cette nuit pour nous. Les Bleus qui prennent déjà la porte de l'Euro de hand, dont ils étaient pourtant les tenants du titre à l'issue de la dernière journée du tour principal. Les Français qui avaient remporté l'épreuve il y a 2 ans ne verront donc pas le dernier carré de cette édition. C'est une première depuis 2020. À cette époque-là, les Français avaient fini 14e. Une rechute après être parvenu à accrocher tout de même une médaille de bronze au Mondial 2025. Mais ça s'arrête là pour les Bleus à l'Euro.
Allez, le tennis avec la suite de l'Open d'Australie. Ça se passe évidemment à Melbourne et place aujourd'hui aux demi-finales de la compétition.
Alors, il faudra attendre 19h30 pour voir les demi-finales dames deuxième de cette compétition. La Bélarusse Sabalenka sera opposée à l'Ukrainienne Svitolina. C'est la femme de Gaël Monfils. Et puis l'autre demi-finale verra une confrontation entre l'Américaine Pegula et la Kazakh Rybakina.
Allez, un mot de boxe avec un Français qui hérite d'une ceinture mondiale sur décision fédérale. Christian Mbili, qui était jusque-là détenteur par intérim du titre des super moyens de la WFBC, a vu la fédération l'élever au rang de champion du monde officiel. Une consécration pour le Français, même s'il aurait préféré l'obtenir sur le ring. C'est l'annonce du départ à la retraite de l'Américain Terence Crawford, qui a profité au tricolore, le titre ayant été laissé vacant depuis le mois de décembre. Et puis un mot de sport en Calédonie avec la rentrée du cyclisme sur piste ce soir. Ce sera à 17h30 au Vélodrome de Magenta. Des épreuves notamment pour les jeunes catégories. Une session qui sera notamment sélective pour un déplacement à venir lors des championnats australiens de la discipline. 11h56, restez bien avec nous, le journal est terminé.